Bonjour et bienvenue à cette émission de la série « Croire d'hier à demain » réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Au microphone, c'est Francine Robert. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Céline Yel, qui est une collaboratrice de l'Institut de pastoral depuis plusieurs années, pas seulement en donnant un cours, mais aussi elle a collaboré à la mise en place des stages en éducation de la foi et en accompagnement des étudiants. Elle est impliquée dans le réseau québécois des récits de vie, c'est-à-dire des pratiques d'histoire de vie, et c'est de cette expérience qu'elle parlera avec nous, ce qui s'y passe, ce que ça apporte, et plus particulièrement les histoires de vie et la trajectoire spirituelle. Céline Yel, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Céline, je disais en introduction que vous travaillez à l'Institut, entre autres, sur les récits de vie et la trajectoire spirituelle, mais je sais que la principale partie de votre expérience n'est pas à l'Institut, mais sur la rive sud, je crois, chemin de vie. Vous travaillez aussi en collaboration ou à l'Université du Québec à Montréal. Pourriez-vous?
Je suis chargée d'encadrement à la TELUC, c'est-à-dire à la Télé-Université, l'université à distance du réseau de l'Université du Québec, dans le cadre du deuxième cycle, un programme court qui s'appelle « Sens et projet de vie », où je travaille davantage dans le cours « Histoire de vie et construction de sens ». Donc, toujours avec cet intérêt des histoires de vie.
Ça veut dire que les histoires de vie, ça ne concerne pas spécifiquement la trajectoire spirituelle, j'imagine?
Non, pas du tout. Les histoires de vie sont une démarche, dans le fond, une méthodologie aussi. Une méthodologie de recherche, de formation ou d'intervention. On l'utilise depuis quand même assez longtemps. On l'a d'abord utilisé, je pense, en anthropologie, ensuite en sociologie. Et ici, au Québec, on peut se rappeler de Fernand Dumont et sa recherche sur la culture québécoise, où il a beaucoup utilisé les récits de vie à l'Université Laval. Ça, c'était en recherche.
En recherche en sociologie.
En sociologie. Oui. Et ici, à Montréal, Daniel Desmarais, qui est une anthropologue, a fait aussi des recherches sur les jeunes chômeurs dans les années 70. Donc, à l'époque des années 70, on a des personnes qui, individuellement, utilisent les récits de vie dans différents contextes, différentes disciplines aussi. Et Gaston Pinault, qui est un de nos pionniers des histoires de vie au Québec et en France, Gaston Pinault est à ce moment-là chargé de recherche à la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal. Et il va donner un cours à l'UQAM pour des gens qui font un retour aux études pour voir comment ils se sont formés depuis qu'ils ont quitté l'école.
Ah oui.
Et donc, ça va introduire toute une dynamique de histoire de vie et formation.
Donc, ça touche vraiment divers secteurs des sciences humaines.
Oui.
Ça sert dans toutes sortes de domaines. Alors, peut-être qu'avant d'entrer dans l'expérience plus spécifique des récits de vie et trajectoires spirituelles, est-ce que on pourrait avoir un point de vue assez global, raconter sa vie, c'est ça, récit de vie, enfin, si je prends l'expression au premier degré, pour moi, c'est ça que ça veut dire, raconter sa vie. Il me semble que tout le monde fait ça, d'une certaine manière, comment ça va, qu'est-ce que t'as fait hier, bon, mes enfants sont malades, ou on raconte notre vie tout le temps, qu'est-ce que c'est
Je pense que, dans le fond, j'utiliserais la définition que Gaston Pinault et Jean-Louis Legrand ont donnée dans le « Que sais-je » sur les histoires de vie. C'est recherche et construction de sens à partir de faits personnels, de faits historiques, de faits précis. Là. Alors, je trouve que c'est intéressant de voir que c'est pas juste raconter pour raconter, c'est ordinairement raconter parce qu'on essaie de faire des liens, on essaie de faire du sens dans ce récit. Ce qu'on peut dire aussi autour de ça, c'est que cette recherche de sens, ça peut être fait sur la globalité de la vie, ou en tout cas, ça a toujours un intérêt de regarder la vie dans son ensemble, même si on peut la prendre sous un biais particulier. Je peux bien regarder un aspect particulier de mon histoire, mais par exemple, je pourrais penser à ma vie professionnelle,
oui.
Ou bien je pourrais penser à mes lieux d'habitation, ou quelque chose comme ça. Bon, je peux prendre un angle particulier, mais ordinairement, en essayant de voir tout au long de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait avec ça, moi? Si je prends ma vie professionnelle, je vais regarder l'ensemble de ma trajectoire. Je peux bien commencer par un morceau particulier qui m'inquiète plus ou pour lequel j'ai plus d'intérêt. Hein? Souvent, on commence par là où on a des intérêts. Bien sûr. Parce qu'on a une question qui nous travaille, on a quelque chose qu'on veut comprendre, qu'on a de la difficulté à comprendre mm-hmm. de notre vie. Et à partir de là, ben, si je refais le lien avec ce qui a précédé ça, de ce qui a suivi, ben, je vais venir à refaire des liens dans ma vie. Il y a beaucoup de ça, on va faire d'accord. des liens.
Ça peut être mon récit de vie comme parent, par exemple?
Bien oui. sûr, de la naissance d'un enfant à la vie adulte d'un oui, enfant. Oui. Donc, oui.
Donc, c'est autre chose, si je vous comprends bien, que de simplement répondre à la question de mon meilleur ami qui me demande ce que j'ai fait de ma soirée hier.
Disons que ça serait un petit récit de oui, vie, oui. récit d'une soirée.
Est-ce que la différence est peut-être aussi, puisque vous parlez d'un outil, peut-être aussi dans la rigueur ou la... Enfin, c'est pas juste un récit plus long.
Non. Bien sûr qu'on peut aller dans le récit spontané que je fais, mais ordinairement, lorsque je le mets dans une démarche, même d'une écriture toute simple, juste écrire simplement une page de sa vie, c'est déjà choisir des mots quand on les écrit, c'est déjà les mettre dans un certain ordre, c'est déjà savoir qui fait l'action, qui est associé à l'action. C'est déjà écrire un certain sens, même si c'est petit. Et donc, ce regard personnel sur l'événement qui s'est passé.
Donc, si on fait un récit de vie, on le fait pour autre chose que pour raconter, mais pour dans un autre but.
Ça peut varier beaucoup les buts, parce que c'est la visite de chaque personne aussi, à moins que ce soit en réponse à une demande particulière. Quand je suis dans un récit de recherche, la visée est déterminée par le chercheur.
Oui.
Et la personne qui fait son récit met son récit au service du chercheur. Quand on est dans un récit de formation, la personne le fait pour elle-même, mais dans le cadre d'une formation précise. Quand je fais mon récit pour moi-même, je le fais avec mon intention à moi, qui peut être de transmettre mm-hmm. quelque chose à mes enfants.
Oui, mais il va quand même y avoir plus de rigueur, finalement, si j'entreprends un procédé comme celui-là, je me pose une certaine exigence de, je sais pas, de mise à distance, d'honnêteté, on peut dire.
Oui, mais l'honnêteté, elle est faite à la fois de l'honnêteté par rapport à ma subjectivité. Quels sont mes vrais sentiments là-dedans? Quelles oui. sont les émotions que j'ai vécues? Parfois, l'honnêteté, dans un récit, on essaie de l'avoir par rapport aux faits objectifs et tout ça. Le récit d'un accident d'automobile prend oui. des couleurs très, très particulières. Oui. C'est comme témoin de l'accident ou si c'est comme personne impliquée dans l'accident.
Absolument, oui. Bon. Alors oui, je voulais pas dire honnêteté dans le sens d'objectivité, mm-hmm. mais d'honnêteté avec soi-même.
Avec soi-même, oui.
D'accord.
Ouais. Et intégrant sa subjectivité aussi, oui. parce que un des intérêts du récit de vie, c'est justement de ne pas regarder la vie juste dans ses côtés objectifs, mais de regarder ses événements à partir de la couleur même qui met le sujet qui est en action là-dedans. Donc, la personne à l'œuvre avec son émotivité, avec sa subjectivité.
Oui, d'accord. Le but étant de se trouver soi-même comme personne et non pas d'écrire une histoire objective du Québec pendant les années où j'ai vécu là.
Non. Et enrichir l'histoire générale, si on peut ouais. dire, de nos histoires particulières, parce que cette histoire particulière porte aussi, avec sa subjectivité, des renseignements utiles. La subjectivité est aussi source de connaissances. Il n'y a pas juste l'objectivité
j'ai
comme source de connaissances.
Oui, et c'est vrai d'autant plus que je présume la dimension de la société dans laquelle je vis, la culture qui est la mienne, le microcosme, si je suis du monde ouvrier ou du monde de la finance ou dans l'éducation. Ou, enfin, j'en suis un témoin aussi oui. de cette réalité historique. Elle me marque et la raconter, c'est aussi permettre à d'autres de la mieux connaître.
Oui, bien sûr. Dans le fond, c'est être à la fois participant de cette histoire, ayant reçu de cette histoire, ayant aussi contribué à cette histoire,
oui.
l'ayant faite aussi,
oui.
et donc aussi étant porteur de ceux qui nous ont précédés, en ayant rejeté parfois ce qui nous précédait, mais aussi l'ayant transformé ou ayant innover dans son étape de vie. Donc, se sachant porteur de ses influences, mm-hmm. l'influence familiale, tout à coup, on s'aperçoit qu'on a des affinités avec l'histoire d'un arrière-grand-père qu'on n'a plus jamais connu, mais qu'on ouais. a, tout à coup, on a trouvé des chemins qui sont semblables. Bon.
C'est là une partie des informations que j'ai prises en préparant cette émission est venue d'un DVD que vous m'avez prêté où vous faites une série d'entrevues avec des intervenants sur les histoires de vie et c'est dans des domaines extrêmement variés. Donc, je rappelle que ce dont on est en train de parler, c'est les récits de vie d'un point de vue très général. Dans ce DVD, à la toute fin, Paul Hébert, le comédien bien connu, lit un poème de quelqu'un de l'équipe.
Oui.
Si vous permettez, j'aimerais qu'on puisse le partager avec nos auditeurs.
Oui, merci.
Raconter ma vie, c'est découvrir qui je suis, sans jamais le savoir totalement, encore moins définitivement. Ma vie comme un trait dans un grand portrait, un fil sur lequel je me faufile dans la trame de ce qui m'entoure en ce moment. Je me situe dans l'espace et le temps et je fais une pause pour que l'on cause de moi, de toi et de l'autre, pour mieux se comprendre en se partageant. Raconte-moi ton histoire. La mienne me semble devant des portes closes. Et voilà qu'en t'écoutant, j'ai peine à le croire, l'écluse se remplit de l'eau de ta prose et s'ouvre pour moi soudainement, m'offrant un nouveau paysage devant qui me remet doucement en mouvement vers moi, vers toi, vers l'autre, que je porte toujours au-dedans. Et de ton souffle de vie subtilement ma voile reprend le vent.
Le poème que nous venons d'entendre, lu par Paul Hébert, a été tiré d'un DVD produit par la télé universitaire du Réseau des universités du Québec qui s'appelle « La démarche autobiographique, un regard québécois ». Je mettrai sur le site Internet les informations, non seulement sur ce DVD, mais aussi sur les lieux et les ouvrages dont nous parlerons au cours de cette émission. Alors, Céline, vous nous avez fait un survol global de ce que peuvent être les récits de vie dans tous les domaines. Et ça m'a rappelé une phrase de Paul Ricard que je ne cite certainement pas mot à mot parce que j'ai jamais réussi à la retrouver. Mais dans ma mémoire, cette phrase-là, c'est quelque chose comme « c'est la vie elle-même qui est hachurée, qui est par petits bouts, qui est fragmentée, et c'est le récit qui est facteur d'unification, de cohérence. C'est le récit qui fait ressortir le fil conducteur. C'est pas ma vie au jour le jour mm-hmm. qui est mm-hmm. en continuité, finalement. C'est le récit que j'en fais. Et ce que vous avez dit tout à l'heure me paraît jouer ce rôle-là, effectivement. Prendre une distance pour voir les fils conducteurs qu'on voit pas quand on est en train de les vivre, peut-être.
Oui. Et qu'on ne voit pas toujours dans le premier récit qu'on fait. Dans le fond, faire le récit, c'est mettre en lien. En racontant, je fais des liens entre différents moments de ma vie, entre différents événements, entre différentes émotions, entre différentes questions que je me suis posées, découvertes faites. Effectivement, c'est une belle phrase de Ricard. Ricard est quelqu'un qui a vraiment travaillé le récit. Et entre autres sur l'identité narrative, dire comment notre identité se construit par justement le récit de soi. Et dans ce récit, moi, j'aime bien utiliser son approche du temps. Parfois, les gens se posent la question, oh, mais moi, j'ai plus le goût de retourner en arrière, oui. d'aller revoir.
Non, c'est
passé. Je veux plus rien savoir. Et pourtant, le passé est parfois encore bien présent dans nos vies. Et Ricard dit quelque chose de bien intéressant sur comment le présent est toujours porteur du passé, du présent et de l'avenir. Parce que notre mémoire, c'est la présence du passé. Hein? Dans notre mémoire, ce qu'on porte actuellement, c'est notre histoire qui est emmagasinée là, et il y a là quelque chose qui est présent.
Qui est actif au présent.
Et ce qu'on anticipe pour l'avenir est tout aussi présent, parce que très souvent, mon présent, je l'évalue, je le regarde dans ce que je voudrais qu'il continue, ce que je voudrais faire disparaître de ma vie, ce que je voudrais qu'il dure longtemps. Donc, c'est ma perception de l'avenir qui me fait juger parfois mon présent de façon positive ou négative. Bien sûr que Ricard aide à réfléchir le récit. Ricard est un des penseurs importants sur toute la question de l'identité narrative.
Alors, Céline, nous avons promis d'aller un peu explorer ce qu'est l'expérience des histoires de vie du point de vue de la trajectoire spirituelle. Une fois qu'on a dit trajectoire spirituelle, le mot spirituel peut vouloir dire tant de choses. De quoi vous parlez exactement et qu'est-ce qui est proposé lorsqu'on parle de faire un récit de vie en termes de trajectoire spirituelle?
Dans le fond, on veut, dans nos ateliers, et là tout de suite, je précise que je le fais pas seul, cette démarche-là, je l'ai développé avec une collègue, Diane Laroche, qui est une travailleuse sociale et qui a toute une expérience et une réflexion aussi sur cette expérience dans l'animation du type de démarche qu'on utilise. Quel type de démarche? Alors, avec Diane, on essayait de préciser comment on abordait le spirituel. On était toutes les deux intéressées par ces questions-là du spirituel.
Oui.
Pour redonner une parole à des Québécois sur cette expérience dont on ne parle pas toujours. Et en parler par rapport à soi aussi. On peut en parler par rapport aux grandes institutions, mais en parler aussi avec soi, comment on a vécu et comment on a évolué par rapport à ces questions-là. Alors, le spirituel dont il est question ici n'est pas nécessairement juste le religieux. C'est le spirituel qui peut être vu dans une perspective humaniste où des gens cherchent le sens, les valeurs de leur vie, veulent arriver à à unifier leur vie. Et très souvent, dans une démarche intériorisante. Alors, ça peut être en relation avec une transcendance, divine ou non, et donc à quelque chose d'un point ultime de la vie. Denise Bellefleur-Raymond donne une définition intéressante de cette recherche humaniste. On peut aussi la faire par rapport à des religions, une expérience religieuse concrète, par rapport à un dieu, bien sûr. Et aussi, je pense juste comment pour des personnes, dans la tradition catholique, on a différentes spiritualités, on a différentes écoles de spiritualité. Alors là, on arrive avec des contenus précis de spiritualité. Dans notre démarche, dans le fond, les gens sont invités à identifier les événements marquants dans une des étapes, là, pas en commençant la première heure, bien sûr, mais à identifier des événements marquants de leur trajectoire spirituelle. Et dans le fond, la démarche en groupe va nous permettre d'essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'il y a de spirituel à cet événement-là ou en quoi on peut mettre en lien cet événement-là et le spirituel. Donc, il y a à la fois des repères plus généraux sur le spirituel, mais aussi une démarche inductive. Parfois, la personne elle-même se dit « Pourquoi j'ai mis tel événement et je n'ai pas mis tel autre? » Bon, et ça, elle peut le réajuster par après.
Oui, on pourrait, par exemple, vous me direz si j'exagère, raconter la perte d'un emploi et ne pas raconter sa confirmation.
Oui, tout à fait. Ça pourrait être tout à fait ça, oui.
Alors que le premier semble ne rien avoir à faire avec la spiritualité et que la confirmation a tout à voir avec la religion, mais n'est peut-être pas un événement marquant.
De sa trajectoire spirituelle. C'est un exemple tout à fait approprié. L'autre élément aussi qu'on signale toujours, ce rapport entre le spirituel et le religieux, il est nécessaire de le préciser parfois même dès le départ, parce que certaines personnes, avant de s'inscrire, vont poser la question si on doit être croyant ou pratiquant même. Alors que pour nous, il n'y a pas d'exigence de cet ordre-là. C'est des gens en quête d'une compréhension de soi et de sa recherche spirituelle. Pour certains, ça leur permet d'identifier leurs questions, de reconnaître les chemins par lesquels ça s'est passé pour eux dans leur vie. Et donc, on n'exige pas, ni au départ, que les gens soient des croyants ou des pratiquants, ni non plus qu'ils ne soient devenus à la fin de... C'est faire un bout de chemin pour comprendre son chemin.
Voilà, on dirait que ça n'est même pas comme objectif, même pas de changer ou de progresser dans sa vie spirituelle, mais de nommer sa trajectoire spirituelle vécue. J'imagine oui. Que oui, je vous vois, vous allez dire que oui, ça nous change quand même.
Ça va. Le verra tantôt.
Mais le but n'est même pas, donc, de devenir plus spirituel ou de devenir plus croyant. Le but est de se connaître comme être spirituel.
Et en le faisant, de devenir plus soi-même là-dedans.
Oui.
Et en devenant plus soi-même là-dedans, on a des chances de progresser.
Bien sûr.
Et aussi en reconnaissant, quand je dis le soi-même, je ne voudrais pas qu'on le fasse dans une perspective où la personne est isolée. Parce que justement, une des caractéristiques de notre démarche, c'est de tenir compte du social qui est autour de la personne. La personne n'est jamais vue comme un être isolé des autres, mais elle est toujours vue comme participant d'une famille, d'une société, d'une culture donnée. Et donc, ce qu'elle est au plan religieux est aussi un effet de ce qu'elle a reçu, de ce qu'elle a cherché, de ce qu'elle a gardé ou abandonné ou transformé de ce qu'elle a, de son expérience.
De ce qu'elle a blessé aussi.
Ah oui, absolument.
De ce qu'elle a détesté, pourrait-on dire.
De ce qui fait la vie.
C'est ça. Alors, dans ce que vous proposez comme expérience, on essaie de mettre le doigt sur non seulement ce qu'on a vécu, mais qui on a été en le vivant et qui on est devenu en le vivant. On se construit soi-même comme regard sur soi.
Oui, la démarche qu'on utilise est inspirée de la démarche de roman familial et trajectoire sociale qu'a développé Vincent de Gaulle-Jacques. Vincent de Gaulle-Jacques dit quelque chose comme l'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet.
Ah, c'est beau ça. Pouvez-vous le redire, s'il vous plaît?
Oui, l'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. Et donc, dans notre histoire spirituelle, on est là aussi le produit d'une histoire personnelle, mais aussi collective, sociale, religieuse, une époque donnée.
D'accord.
Et devenir un sujet, c'est prendre vraiment sa prise à soi là, là-dedans.
Donc, si je reviens un petit peu en arrière, être le produit d'une histoire, ça veut dire accepter que je n'ai jamais pu écrire ma propre histoire à partir de zéro. J'ai été, d'une certaine manière, guillemets, fabriqué par un concours de circonstances que je n'ai jamais choisi, ni ma famille, ni mon époque, ni le Québec avant la Révolution tranquille ou après. Donc, je suis le produit d'une histoire.
Oui.
Et en même temps, je dois devenir sujet ou auteur de cette histoire.
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, ça commence à notre naissance. Hein. On n'a pas décidé du lieu et des parents et de la date et tout.
Et on n'a même pas décidé de naître.
C'est ça. Alors, il y a un auteur qui dit que la première question qui amène une recherche spirituelle, c'est celle-là, pourquoi j'existe?
Ah oui,
qu'est-ce qui fait que je suis là? Alors, si je reviens à notre démarche, qui est inspirée de la démarche de roman familial et trajectoire sociale, c'est une démarche qui fait appel, dans le fond, psychologie et sociologie. On est marqué par ce que l'on est personnellement, notre univers intérieur, si on veut, hein, tempérament, caractère et tout ça, mais aussi on est marqué par le milieu social qui nous a façonnés et dans lequel on a évolué et qui laisse ses traces. Donc, cette interaction, cette imbrication très proche, parfois on en est plus ou moins conscient, mais tout au long de notre vie, on travaille avec ce qu'on a reçu puis ce qu'on a fait avec.
Donc, les décisions qu'on a prises,
oui.
Les choix qu'on a faits, parfois sans même se rendre compte qu'on faisait un choix.
Et aussi par les choix qui nous ont été imposés comment on les a vécus. Je prends un exemple de quelqu'un à un moment donné qui mettait, tu sais, qu'elle avait fait ses études dans telle sorte d'école. Bon, c'est une femme à peu près de mon âge. Or, à notre époque, à mon âge, à moi...
C'est la soixantaine, sans commettre d'indiscrétion.
Les femmes, on avait très souvent école normale pour formation dans l'enseignement, et infirmière, secrétaire, ou quelque chose du genre. C'est très significatif de savoir si on est allé à cette école-là parce qu'elle était proche de chez soi, parce qu'elle était moins chère, parce qu'elle était l'école disponible pour une formation, ou si ça a été vraiment un choix personnel
ou
pour
un
la
choix,
ou le choix des parents.
Oui, qui correspond que les à parents, un idéal, la mère qui a toujours voulu avoir une fille infirmière.
Répondant au projet de nos parents nous. Alors, c'est important parfois de réfléchir à ça pour voir qu'est-ce qu'on a fait avec ce qui nous a été proposé par notre environnement. Et avec ça, on a pu avancer et en tout cas, on a fait notre vie de cette manière-là.
Alors, Céline, qu'est-ce qui se passe dans ces groupes?
Okay.
Et peut-être même avant, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça se passe? Et de quoi parle-t-on quand on parle de groupes? Oui. C'est pas des engagements pour un an ou à vie, cette histoire-là?
Non, non. Alors, la démarche qu'on a mise sur place, Diane Laroche et moi, on a commencé d'abord à Chemin de vie à Longueuil. Chemin de vie est un organisme communautaire rattaché au diocèse de Saint-Jean, mais avec sa pleine autonomie aussi, où on veut offrir un lieu pour des gens en recherche spirituelle de tout ordre.
Donc offrant, large.
Oui, très large. Et nous, comme on avait cet intérêt pour l'histoire spirituelle, la démarche de la trajectoire spirituelle, on a proposé à Chemin de vie, puis j'ai été impliquée à Chemin de vie dans d'autres questions. Alors, avec Diane, on a développé cette démarche-là et c'est là d'abord qu'on l'a offert. C'est un petit groupe de 6 à 8 personnes. On n'a pas de contraintes monétaires puisqu'on fait ça bénévolement.
Oui.
Et quand on est à l'Institut, maximum de 12 personnes. Donc, on est dans un petit groupe, dans un temps restreint. On fait ça dans une fin de semaine, c'est 15 heures. On fait ça intensif parce qu'il y a une dynamique aussi qui se crée. Et dans ce sens-là, c'est une sorte de démarche. On pourrait le faire autrement ailleurs, avec des rencontres successives, avec de l'écriture. Mais là, on est vraiment dans une démarche intensive sur une fin de semaine.
Est-ce que je peux dire que là, nous parlons d'expérience de groupe, mais qu'on parlera aussi de ce qui peut être fait dans d'autres contextes, un peu plus loin ou un peu plus tard dans l'émission, ce qu'on peut faire chez soi, en solo.
Oui.
C'est une promesse.
Oui, il faudrait y revenir. C'est aussi un type de démarche particulière par rapport à l'ensemble des démarches en histoire de vie, parce qu'il y en a d'autres qui vont avec de l'écriture, il y en a d'autres qui vont avec même des arts visuels et tout ça, pour travailler son histoire, parce que faut la faire surgir, cette histoire-là, parce qu'on la porte, mais elle est un peu diffuse en nous.
Donc, notre but, là, c'est de comprendre la valeur du récit de vie ou de l'histoire de vie comme outil, que ça soit personnel ou en groupe. Je vous redonne là où vous étiez sur qu'est-ce qui se passe dans ces groupes-là et comment vous procédez.
Okay. Alors, on a travaillé avec des outils de Vincent Gaulle-Jacques, comme je disais. Je pense que je vais raconter la première étape, bien sûr, on se dit pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on cherche, un peu nos objectifs personnels en s'inscrivant à une démarche comme ça. Ah, c'est souvent faire le point. Ça commence souvent de cette manière-là. Faire le point. Je viens de vivre tel événement et ça m'amène à réfléchir sur qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie jusqu'ici. D'autres vont dire, je suis déménagée, je suis dans une période aussi où je voudrais savoir plus clairement où je vais. Alors, on en a qui sont faire le point vers le passé, d'autres qui cherchent vers l'avenir, et pourtant on est tous au présent en même temps.
Oui.
On peut en avoir aussi en disant, et ça fait un bout de temps que je m'occupe plus de ces questions-là, et là, j'ai comme un intérêt sur la question du spirituel. Et quand j'ai vu ça d'annoncer, je me suis dit, c'est pour moi, ça, là. Non, bon. Alors, il y a des gens qui viennent un peu intuitivement.
D'accord.
Là,
et d'âge varié aussi, j'imagine.
Oui, mais on a beaucoup de gens autour de la 60aine, je dirais. Là, on en a quelques-uns plus jeunes, puis quelques-uns plus vieux. Quand on est à l'Institut pastoral, c'est plus jeune de façon générale, parce que vous avez aussi des étudiants qui sont là. Donc, on peut avoir là des gens dans la 30aine, dans la 40aine, dans la 50aine, mais on peut en avoir jusqu'à 80 ans. Bon, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est ensemble? Un des premiers exercices qu'on fait, c'est sur notre prénom. ça a l'air bien ordinaire.
Oui, surtout qu'on ne l'a pas choisi, notre prénom.
C'est comme bien des choses de notre vie. Alors, on part de notre prénom. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est ce prénom-là qui nous a été donné? Si on a été bien avec, si on se sent bien, si on l'avait changé, pour lequel on l'aurait changé, bon. Et en parlant de ça, on retrouve très souvent les influences dans la famille. Qui a choisi le prénom? Et quand on ne le sait pas, on entend aussi des petites phrases qui nous disent quelque chose de notre histoire. Ça, je ne le sais pas, mais d'après moi, c'est ma mère. Mm-hmm. Ou c'est mon père, je pense, qui faisait ça chez nous. Alors, déjà, on voit ce qu'on fait quand on raconte notre histoire. Il y a des bouts qu'on sait, on peut affirmer, puis il y a des bouts qu'on complète en disant « je pense que », en se fiant à d'autres choses. Des fois, c'est important de s'en apercevoir qu'on fait ça. Mais ça dit aussi des époques. On a des Marie, des Joseph. Là, ça dit ils ont tous plus de 40 ans, ceux-là.
Oui.
Alors, on a des vedettes. Parfois, on a aussi parfois l'image sociale de quelqu'un. C'est le nom de la fille du médecin qu'on aimait bien. Alors, il y a une influence sociale. Oui. On aimerait que notre fille soit aussi bien que la fille du médecin. On a aussi des noms de saints à une certaine époque.
Oui.
On a les noms des marraines, des parrains. Donc, on est avec des gens qui ont été baptisés, ce qui n'est pas le cas quand on arrive chez des plus jeunes. Alors, on retrouve plein d'influences déjà avec le prénom. Alors, on retrouve presque tout ce qu'on a par après. Bon, je passe rapidement à l'autre item. On fait notre carte d'identité, c'est-à-dire on identifie actuellement où on est. Nom, profession, juste en mettant des mots. Et à chaque fois, on écrit ça sur des grands papiers qu'on va afficher. On le fait personnellement avant de le mettre dans le groupe. Ce qui fait qu'on a une trace de nous. Et ensuite, quand on entend les autres, on peut être amené à vouloir compléter, ajouter, mais on a notre perception à soi en premier. Alors, on fait notre carte d'identité, les valeurs, notre allégeance religieuse, s'il y a lieu, politique. On a un certain nombre de questions. Et le gros morceau, c'est vraiment la trajectoire spirituelle. Quand c'est possible, on y associe là d'où on vient. La famille maternelle et la famille paternelle avec ses valeurs, ses caractéristiques et tout ça. Et ensuite, nous, on arrive là-dedans et notre trajectoire spirituelle avec la ligne de la trajectoire, mais aussi les influences, les livres, les personnes qui nous ont marqués, puis aussi ce qui se passe dans la vie de la famille. C'est pas nécessairement des événements de ma vie, mais la vie de la famille ou de la société autour de soi. Tu sais, par exemple, pour des gens d'une certaine époque, on va avoir l'Expo 67.
Les Beatles.
On peut avoir le Vatican II pour certains. Pour d'autres, on aura peut-être plus des voyages marquants parce qu'on va voyager plus à une certaine époque. Bon, alors, on va avoir comme ça, la scolarité va aussi varier. Oui.
Et donc, ce que les gens sont invités à raconter, si je vous suis bien, ce sont des points marquants. Là, ils peuvent pas raconter toute leur vie, évidemment. Donc, ils choisissent ce qui leur paraît marquant dans leur trajectoire spirituelle.
Moi, mais comme ils font une trajectoire, peut-être qu'il faut dire que j'ai failli prendre une feuille, un crayon pour vous montrer comment faire ça à la radio. C'est pas très pratique. Alors, la trajectoire, c'est que les gens inscrivent le début de la ligne, la naissance, et à la fin, la date d'aujourd'hui où on est. Et là-dessus, les gens écrivent ce qu'ils veulent. On dit les points marquants de sa trajectoire spirituelle, mais on retrouve les traces de presque toute la vie ordinairement.
Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y a quelque chose de très englobant dans le spirituel.
C'est ce qu'on découvre. Oui. Ouais. On retrouve des traces de toute la suite de la vie d'une certaine manière. Mm-hmm. Et ensuite, quand des personnes font ça pour la première fois, c'est aussi l'occasion de ramasser sa vie. Ça, c'est un commentaire qu'on a. C'est la première fois que tout à coup, je regarde ma vie comme une globalité, dans son ensemble. Parce qu'on fait pas ça si souvent que ça, là. Il y a quelque chose où on regarde l'ensemble de sa vie.
L'image qui me vient, c'est que d'habitude, on la voit comme on regarde le paysage quand on est dans le train ou dans l'autobus. Ça passe.
Oui.
Alors que là,
regarder et la mettre sur un papier qu'on peut afficher, c'est aussi la regarder d'un peu plus loin. C'est déjà physiquement de la regarder séparée de soi, pas la regarder juste à l'intérieur de soi, ouais. Mais la l'extérioriser et la regarder.
Donc, il y a une mise à distance.
Il y a une mise à distance, oui. Oui, une mise à distance par ce geste-là. Et par le fait aussi que tous le font dans le petit groupe.
Ah oui, et que tous le voient.
Et que tous le voient.
D'accord.
Et que donc, et qu'en voyant les autres, on voit aussi ce qu'on a fait de semblable et de différent, ce qu'on a de semblable et ce qui est notre réalité. Dans le fond, où on se retrouve profondément solidaires les uns des autres et en même temps tellement différents des autres.
Oui, et accepter. Chacun est accepté par tous.
Bon, il y a des règles pour faire ça. Dans les règles que l'on donne au point de départ, c'est bien sûr qu'il y a un respect mutuel qui est exigé. Et chacun, dans le fond, c'est ce que je demande à l'autre, il faut que je le donne aussi à l'autre.
Bien sûr, c'est vrai.
Alors, il y a un respect, il y a une confidentialité aussi. Et on réagit, non pas pour juger l'autre, mais plus en écho à ce que l'autre dit, pour dire l'effet que ça nous fait à soi ou ce que l'on comprend de l'autre.
Les autres ne sont pas là pour me donner le bon diagnostic.
Non. Ah, c'est la personne elle-même qui est la seule.
Par contre, je présume que si je me fie à mes expériences de groupe dans divers domaines, dès que j'entends quelqu'un d'autre, qu'on a plein de choses en commun, c'est très possible que ça m'éclaire ce que l'autre raconte pour lui-même. Ça m'éclaire sur le sens de ce que moi-même j'ai vécu.
Oui.
Et où ça m'amène à le voir autrement.
Oui. Tu sais, quelqu'un va dire, ah, ben c'est ça que j'essayais de dire. J'ai jamais réussi à le dire. Ou encore, va dire, ah non, c'est pas ça, moi. C'est pas comme ça que je vois ça. Donc, ça aide la personne à se clarifier à elle-même. Cet échange qui est aussi, je dirais, accueillir et être accueilli. Il faut être prêt aussi à entendre l'histoire de l'autre et à recevoir l'histoire de l'autre avec ses joies, mais aussi avec ses difficultés, ses souffrances. Il y a ça aussi. Pour certains, c'est plus difficile d'écouter l'autre que de se dire. Alors, on a à être attentif à ça tout au long de la démarche. Bon, alors, en faisant ça, dans le fond, on arrive avec divers types de... Ça permet à chacun de voir des lignes de spiritualité qui l'animent et qui font sens pour elle.
Et qui font vivre.
Oui, oui.
J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui. Sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie. Et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier, de poissons, je suis de roches et de poussière. Je ne suis pas des grandes moissons. Je suis de sucre et d'eau d'érable, de paternoster, de credo. Je suis de 10 enfants à table. Je suis de janvier sous zéro. Je suis d'Amérique. De chômage et d'exil. Je suis d'octobre et d'espérance. Je suis une race en péril. Je suis prévu pour l'an 2000. Je suis notre libération. comme des millions de gens fragiles à des promesses d'élection. Je suis l'énergie qui s'empile comme Gava à Manicouagan.
Céline Yel, vous nous avez présenté trop brièvement à votre goût, j'en suis certaine, la démarche qui est possible dans des groupes intensifs. Si on parlait un peu, disons, des fruits, c'est sûr que depuis le début de cette émission, on parle d'une certaine manière des fruits que ça apporte. On a déjà parlé de la construction de la personne comme sujet et auteur de sa vie. Vous avez parlé d'autonomie, se connaître mieux, voir mieux d'où on vient pour décider où l'on va. Est-ce qu'on pourrait ramasser ça davantage en fonction de la trajectoire spirituelle? Quels sont les fruits que les gens disent que ça leur donne de vivre cette expérience?
Est-ce que je vais le mettre juste avec la trajectoire spirituelle? Mais il y en a que je vais associer aux deux. Tu sais, par exemple, un effet d'unification de sa vie. C'est à la fois de la prise sur sa vie, mais aussi une conscience de soi et un rapport à l'autre qui est transformé. Et dans ça, je dirais, dans les événements importants de sa vie, c'est créer une spiritualité bien en lien avec sa vie. Donc, on ne cherche plus une spiritualité dans des livres, une spiritualité extérieure à soi, mais on découvre tout à coup la spiritualité comme étant ce qui anime la vie. Je portais à dire qu'en termes chrétiens, on pourrait dire qu'il y a là une spiritualité de l'incarnation, une spiritualité de prise au sérieux d'une histoire humaine vécue en profondeur ou avec intériorité.
Avec son intériorité, c'est ça. Bon. Ce que vous venez de dire me rappelle un commentaire d'une dame qui avait vécu la démarche que j'ai retrouvé dans un article que vous avez publié. Vous me permettez juste un petit bout. J'ai aimé quand, lorsqu'elle dit, j'ai découvert que la spiritualité, c'est pas quelque chose. Ça fait partie de moi, c'est comment je vis. Et elle continue en disant, ben oui, c'est là. Moi, je pensais que la spiritualité, c'était quelque chose à acquérir, à aller chercher. Alors que c'est là déjà, c'est en moi.
Oui, oui. Je pense que ça, c'est un des effets d'intériorisation de sa vie. On n'est plus en extériorité, mais en intériorité. Un autre élément qui arrive très souvent, se dire des moments difficiles de sa vie, être accueilli par d'autres, y réfléchir, humaniser l'autre, comme aussi on veut s'humaniser soi-même, ça a un effet réconciliant. Réconciliant avec soi, avec des bouts difficiles de sa vie, avec des bouts dont on n'est pas toujours très fier, mais aussi se dire que ça fait partie de ce qui m'a formé et que je peux en tirer quelque chose, un profit actuellement. Donc, il y a un effet aussi, je dirais, d'humanisation des autres qui ont parfois pas été à la hauteur dans ma vie et s'apercevoir que nous aussi, on ne l'est pas toujours. Donc, l'autre n'est ni si méchant, ni si, si parfait. Oui, alors, des fois, on les a idéalisés, c'est pas mieux.
Et on a été déçus.
Ou,
au contraire, on a gardé une image idéale et en faisant son récit de vie, on s'aperçoit que par en dessous, il y a plein de choses qu'on n'aimait pas de ces gens-là.
Oui, et ça peut être ça tout à fait. Tu sais. Ça donne un effet, certains vont dire guérissant, des choses qui sont trop à vif ou qui sont difficiles vont être mieux intégrées à la vie.
Oui.
Savoir que ça a été là, que c'est inacceptable, mais que ça fait partie de mon passé maintenant et que je sais que c'est là, mais j'ai pu m'en sortir et je peux continuer à vivre sans porter continuellement la pesanteur de ça.
Oui. Donc, vous diriez que ça transforme parfois le rapport que la personne entretient avec certains éléments de son propre passé.
Bien sûr, certainement, oui.
C'est intéressant.
Oui, je pense que c'est un de ses grands effets.
Libérateur, là.
Oui. Je pense que c'est aussi s'accepter là-dedans. Accepter que l'on garde sa valeur et sa qualité de personne à travers ces changements-là oui. qu'on a vécu et à travers ces difficultés-là traversées. Oui.
Je ne sais pas si je vous amène ailleurs que là où vous vouliez, mais je dirais que si on parle de trajectoire spirituelle et si on parle de Québécois et de Québécoises nés dans les années 40-50,
oui.
il y a aussi, j'imagine, beaucoup de comptes à régler avec
oui.
Une certaine expérience ecclésiale, bon, souvent stimulante, mais souvent maladroite, frustrante.
Oui, tout particulièrement dans l'histoire des femmes.
Oui.
Je veux souligner. Très souvent, les histoires de femmes ont des bouts difficiles reliés soit à la contraception, soit aux responsabilités possibles dans l'Église,
oui.
soit des bouts difficiles où quelqu'un peut avoir vécu un avortement, ou même simplement, ce qui est quand même presque la moitié des Québécois qui se sont mariés, avoir vécu un divorce.
Ah oui.
C'est aussi des moments où des gens se sont crus exclus de l'Église à cause de ça. Bon,
oui.
alors il y a toute interprétation.
Ça peut nous réconcilier, c'est
oui.
ça. Le faire dans un contexte de récit de vie, ça peut peut-être faire qu'à un moment donné, j'aurais plus besoin de toujours les formuler, ces reproches-là. J'intègre ces événements-là dans ma vie
oui.
et je passe à autre chose.
Oui, je les intègre. Et je vois que je ne suis pas seule à l'avoir vécu.
Mm-hmm.
Et des fois, juste de savoir qu'on n'est pas tout seul au monde comme ça, ça fait déjà du bien de dire, ah oui, et comment l'autre s'en est sorti, ou les ressources qui existent.
Comment il a géré sa colère ou sa
oui.
déception.
Et voir
oui.
qu'on peut s'en sortir.
C'est parfois. Certainement des fruits.
Oui, et ça, c'est dans la démarche de groupe. Quand quelqu'un le fait personnellement.
Oui, on avait promis aux gens qu'on reviendrait. C'est pas tout le monde, hein. Céline qui est prête à s'embarquer, moi la première, dans quelque chose où je raconte ma vie avec plein de gens, là.
Oui.
C'est très bien de le faire, là. Mais il y a moyen d'utiliser ça comme
oui.
outil.
Oui, alors il y a d'autres types de démarches, bien sûr. Il y a des démarches où les gens écrivent et apportent la partie d'écrit qu'ils veulent à d'autres. Donc, dans un groupe où on échange, à partir des écrits, quelqu'un peut écrire tout ce qu'il veut écrire pour se comprendre lui-même, mais fait des choix dans ça, de ce qui est prêt à partager avec d'autres. Et là, se développe progressivement cette relation de confiance.
Okay. Là,
mais
ça
il y a
sera
aussi...
un groupe qui se rencontre à intervalles
oui.
plus éloignés. On
c'est
parle
ça.
Pas d'un week-end intensif.
Oui, c'est ça. Il y a des groupes qui font ça sur 2-3 ans, par exemple.
Oui.
Et ça se fait dans des groupes littéraires, des groupes de loisirs littéraires, et ils ont écrit leur vie à travers 3-4 ans. Mais il y a aussi que personnellement, on peut commencer à l'écrire selon ce qu'on veut faire à cette étape de la vie où certaines personnes sont rendues. Elles pensent surtout à qu'est-ce qu'elles vont transmettre à leurs enfants. Alors donc, il y a des récits de transmission. Dire à mes enfants le chemin que j'ai parcouru moi dans ma vie. Surtout qu'on a connu beaucoup de changements. En tout cas, on a l'impression qu'on a été très marqué dans notre histoire par la différence entre
oui.
le monde de notre enfance, de notre adolescence
très,
et le monde
oui.
de l'adolescence de nos enfants.
Oui.
Alors, des parents peuvent avoir le goût d'écrire...
De témoigner d'une société qui bientôt n'existera plus jusqu'à
oui,
un certain
oui,
point.
Oui, et qui s'est transformée,
oui,
qui a contribué
oui.
à nous transformer et qui a contribué aussi à faire des défis dans notre vie.
Je vais aborder quelque chose dont on n'avait pas prévu de parler, Céline, mais est-ce qu'il n'y a pas eu cette mode il y a 2 ou 3 ou 5 ans de gens âgés qui racontaient dans des cafés à Montréal? Pour les jeunes voulaient entendre des gens qui pouvaient témoigner d'une période qu'eux connaîtront jamais. Ça attirait plein de personnes. Hein?
Oui, je pense que ça existe, puis ça existe encore. Il y a plein d'affaires. Il y a un groupe qui s'appelle L'amitié n'a pas d'âge. Je pense que c'est né des recherches sur l'intergénérationnel de Jacques Grandmaison et Solange Lefebvre. Et dans ce groupe-là, oui, il y a des choses sur comment des aînés vont transmettre des morceaux de leur histoire à des plus jeunes
bon.
Et tout ça. Oui, il y en a plein.
Si on revenait, oui, je vous ai égaré un peu, pardon.
Mais pour chacun
oui.
peut le faire pour soi-même.
Pour soi-même.
Oui, en partant de là où il y a le goût d'écrire.
Où j'ai besoin
oui.
de regarder d'où je viens. Enfin, tout ce qu'on a donné comme raison pour participer à un groupe peut être des raisons. Décider de prendre du temps, m'asseoir devant mon ordi, je sais pas, moi,
ou avec un cahier.
2 heures par semaine. Ou...
Ben, il y a plusieurs personnes qui aiment mieux un cahier.
On n'écrit pas son journal, c'est-à-dire on parle pas de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais d'une trajectoire
oui,
de vie.
On fait son histoire.
Ou d'une trajectoire de vie spirituelle,
oui.
dépendant
oui.
de l'angle sous lequel on veut revisiter sa vie.
Oui, parce que parfois, c'est qu'on a aussi besoin de faire un bilan de sa vie. Oui. On voudrait savoir ce qu'on a réussi dans notre vie.
Ah oui,
bien sûr. Autant que les échecs que j'ai rencontrés et comment les échecs que j'ai pu rencontrer, comment ils m'ont transformé ou je les ai transformés pour en faire quelque chose aussi.
Oui, bien sûr.
Alors, quand on est devant des questions de bilan de vie aussi, ça existe, ça, ou des gens qui veulent le faire.
Et c'est pas nécessaire d'avoir 80 ans, j'imagine. Non. Je pense à des parents, par exemple, dont les enfants deviennent... de jeunes adultes partis de la maison et qui sentent le besoin de faire le bilan de ce qu'ils ont été comme parents et de ce que ça leur a fait vivre, parce que là, il y a comme une nouvelle étape de vie qui commence pour eux.
Tu sais, il y a des gens aussi qui le font au moment de la retraite.
Ah oui?
Bon, j'ai deux amis du réseau là, des histoires de vie qui animent un atelier qui s'appelle « À la retraite, retraiter sa vie ».
Ah oui,
retrait d'union, traiter sa vie. Dans le fond, qu'elle demandait de faire un travail sur le traitement de sa vie au moment où on prend sa retraite. Alors c'est dans, ça, c'en est un qui est un peu dans le même format, mais là, on travaille la vie professionnelle, ce qu'on en garde et comment on anticipe la retraite.
J'ai même vu sur le fameux DVD dont on parlait tout à l'heure, une enseignante au secondaire qui fait aussi vivre cela à ses ados du secondaire. Je trouvais ça remarquable. De dire à des jeunes de 15 ans qu'ils ont déjà une vie à raconter, c'est quelque chose. Ils ont déjà une histoire, ces jeunes-là, qui les marque. Je trouvais ça magnifique, ça me rappelait mes belles années au secondaire.
Oui, c'est vrai. De toute façon, est-ce que c'est pas beaucoup à l'adolescence comme ça qu'on a besoin de faire le point de...
Construction de l'identité, finalement.
Oui. Et peut-être juste souligner dans les outils quelqu'un qui voudrait le travailler seul, mais en ayant de l'aide un peu. « Bilan de vie » de Jean-Luc Etu. C'est un livre qui, chapitre par chapitre, peut donner à la fois des pistes pour travailler son récit et l'interpréter et se comprendre là-dedans. On peut le faire seul, mais accompagné par une personne. On peut demander à quelqu'un à qui on donne notre texte et à qui on demande de réagir. Donc, c'était bien un lien de confiance.
L'autre me permet une distanciation, je dirais.
Et en plus, c'est que l'autre aussi va m'inviter à expliciter des choses que je prends pour acquis, que je me raconte trop facilement peut-être, et donc que je passe vite sur ça parce que ça va comme de soi, c'est trop clair pour moi. Alors l'autre me dit, mais pourquoi au juste tu faisais ça à ce moment-là ou quel sens ça avait pour toi, et ça va m'amener à quelque chose de plus intériorisé.
Ah oui, et j'ai aussi vu sur le DVD qu'il y en a qui procèdent par Internet, à la télé universitaire, qui envoient leur récit de vie à un professeur, une accompagnatrice, et se les envoient les uns aux autres, et s'envoient leurs réactions. Je me dis, il y a là une solution.
Le petit bout d'expérience que j'ai là-dedans, comme chargée d'encadrement à la télé, les textes que les gens écrivent, moi, j'ai à les lire. Ça fait partie de mon travail. Bien sûr, je suis aussi là pour les aider là-dedans.
Vous le faites vous-même à la TELUC, ce genre de travail?
Oui.
Ah bon?
Oui. Et les gens me l'envoient, mais aussi, on les invite beaucoup. Ils sont formés en petits sous-groupes de 2-3 qui se rencontrent minimum 3 fois sur un semestre, disons. Mais entre eux, dans le petit groupe, ils peuvent s'envoyer ou le texte au complet ou une partie. Oui. Ou encore, ils peuvent se rencontrer pour se reparler de comment ils font ça, comment ils vivent ça, ce qu'ils trouvent difficile, se donner des trucs. Parce que des fois, on a à se mettre en route juste pour faire surgir ces souvenirs, parce qu'il y a des choses qu'on oublie. Et des fois, en s'en parlant, on dit « Oh oui, moi aussi, il faut que je parle de ça, mais je l'avais oublié. »
Au fond, ce que vous me répondez, Céline, quand je vous dis « Moi, je ne suis pas sûre que je le ferai en groupe », c'est « On peut le faire tout seul, mais avec d'autres. »
On a toujours un avantage, d'avoir un écho de quelqu'un d'autre.
Je comprends bien. Céline Niel, merci beaucoup pour... toutes ces informations, d'avoir partagé aussi cette expérience que je trouve tout à fait passionnante. Et j'aimerais conclure sur une image qui vient là encore du fameux DVD. Quelqu'un qui disait, moi, ce que j'ai vécu en faisant mon récit de vie, c'était dans un groupe, ça a été le sentiment d'accorder les cornes de mon violon comme si je traînais un violon où il y avait une corde grinçante, une corde cassée, trois cordes qui jouent bien ensemble, puis une qui a jamais sa place. Je paraphrase, développez pas comme ça. Et de sortir de cette expérience-là en ayant fait un travail où toutes les cordes peuvent jouer ensemble sans que ça grince, ou alors trouver la place de la corde qui continue de grincer pour que le violon donne quand même un son. Je trouvais... Oui, très belle cette image.
Oui.
Merci beaucoup, Céline, d'avoir partagé tout ça avec nous.
Merci à vous aussi. Puis merci à Diane Laroche, avec qui je fais ce travail-là.
Alors, Céline Niel nous a donné à la fois une information... et des ressources, les éléments de ressources qui ont été mentionnés, que ce soit DVD, ouvrages publiés et même site Internet. Toutes ces informations-là seront disponibles sur le site Internet de l'Institut de Pastoral à partir de la page sur les émissions sur cette série « Croire d'hier à demain ». Je vous rappelle que cette émission est produite dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut de Pastoral des Dominicains. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. Au microphone, Francine Robert, je vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Radio Ville-Marie. À bientôt.